Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons la prise en charge du syndrome hémolytique et urémique atypique, ou CHU atypique. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Julien Zuber. Professeur Zuber, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Professeur Zuber, vous êtes néphrologue, professeur d'immunologie clinique à l'Université de Paris, praticien hospitalier au sein du service de néphrologie transplantation rénale adulte de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et chercheur à l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques. Alors, professeur Zuber, juste avant d'aborder avec vous la prise en charge des patients atteints de CHU atypique, on va évoquer le diagnostic de cette maladie. Quelle est la démarche à adopter pour permettre un diagnostic rapide de CHU atypique ?
Le CHU atypique est difficilement accessible dans une démarche rapide et c'est toute la difficulté que ça reste un diagnostic d'élimination. Il n'y a aujourd'hui pas de test diagnostique, en particulier lors d'une prise en charge aiguë, en situation d'urgence, pour certifier le diagnostic de CHU atypique. Ça veut dire que toute la démarche diagnostique, elle s'articule autour de l'élimination de diagnostics dits différentiels et la rapidité de sa mise en œuvre peut différer selon qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Chez l'enfant, c'est relativement simple car finalement, les diagnostics différentiels, c'est d'abord et avant tout le CHU dit typique, celui qui est associé, vous savez, aux diarrhées, avec des bactéries qui produisent des toxines, qui ont une toxicité pour le rein. Et cette forme-là, elle est archi-prédominante. Donc, c'est ce diagnostic-là qu'il faut éliminer en premier. Et puis après, il y a d'autres CHU qui sont beaucoup plus rares, dans des contextes souvent très évidents. Et donc, finalement, la difficulté diagnostique n'existe pas, que ce soit le CHU associé à l'infection à pneumocoque, les anomalies du métabolisme de la vitamine B12, tout ça, c'est des exceptions. Donc, très vite, on arrive au diagnostic de CHU atypique par élimination. Chez l'adulte, c'est plus compliqué. On a besoin de plus de temps parce qu'il faut éliminer d'autres maladies, comme le purpura thrombotique thrombocytopénique, qui est un diagnostic différentiel, comme les CHU qui peuvent compliquer des maladies systémiques, des cancers, des prises de médicaments. Et donc, ce temps-là peut justifier qu'une démarche diagnostique et thérapeutique un peu passe-partout soit mise en place au début.
Alors, si on s'intéresse maintenant à la prise en charge de ce CHU atypique, quels sont les types de traitements disponibles actuellement pour cette maladie ?
Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le purpura thrombotique thrombocytopénique, qui est une forme de micro-angiopathie thrombotique, c'est-à-dire une forme de maladie qui touche les petits vaisseaux comme le CHU atypique. Et historiquement, il a été montré que l'administration de plasma fort volume permettait d'améliorer le cours de cette maladie et en améliorer le pronostic. Et puis, par analogie, le CHU atypique a finalement bénéficié de la même approche thérapeutique. Je dis bénéficié, mais l'efficacité de la plasmathérapie est sans doute moindre dans le CHU atypique que dans le purpura thrombotique thrombocytopénique. Si bien que lorsque sont arrivés une nouvelle classe de médicaments, des médicaments qui ciblent le complément, dont on connaît le rôle déterminant dans la pathogénie de cette maladie, le CHU atypique, ça a été quelque chose qui a transformé l'approche thérapeutique et désormais, c'est utilisé comme traitement de référence du CHU atypique, même si dans la démarche, dans diagnostic initial, vous savez, que j'ai évoqué tout à l'heure, où il peut y avoir une certaine forme de flou parce qu'on est dans une démarche de diagnostic différentiel, à ce moment-là, il peut y avoir dans les premiers jours le besoin de la plasmathérapie. Dès qu'on a la conviction qu'il s'agit d'un CHU atypique, la conversion vers un traitement qui cible le complément.
Et ces traitements, professeur Zuber, est-ce qu'ils sont individualisés ou est-ce qu'ils sont communs à tous les types de patients ?
Quand on a la conviction qu'il s'agit d'un CHU atypique, mais encore une fois, avec toutes les précautions déjà prises, il est aujourd'hui bien admis que la plupart d'entre eux ont une physiopathologie qui est dictée par une dérégulation d'une des voies du complément, qu'on appelle la voie alterne, et du coup, on a ces médicaments ciblés qui ciblent le complément pour le neutraliser. Et ça, dans la période aiguë, je pense que c'est quelque chose dans les pays, entre guillemets, riches, qui ont accès à ces médicaments-là, c'est aujourd'hui un peu le passage obligé parce que ça contrôle très, très bien la maladie. Après, dans le plus long terme, il y a une certaine forme d'individualisation. D'une part, parce que certains de ces CHU atypiques peuvent impliquer des anticorps qui vont déréguler cette voie alterne du complément. Et dans ces cas-là, il est logique de proposer des traitements pour soustraire ces anticorps, donc des immunosuppresseurs, des échanges plasmatiques. Ça, c'est un des aspects pour une des formes de CHU atypique. Et puis, l'autre aspect d'individualisation, c'est la durée du traitement. C'est un serpent de mer. Combien de temps il faut administrer ces traitements ciblant le complément ? C'est pas tranché. Il est acquis qu'on peut l'arrêter chez un nombre de patients, peut-être pas chez tout le monde, et probablement sur la base d'éléments génétiques et cliniques. Et ça, ça fait partie des travaux en cours. Identifier les patients chez qui on peut l'arrêter et quand.
Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des précautions à prendre en fonction de la prise en charge envisagée?
Alors, les traitements en question qui ciblent le complément, et en particulier un composant important pour l'élimination de bactéries, notamment le méningocoque ou le gonocoque, le risque corollaire, c'est d'avoir une augmentation du risque d'infection à méningocoque et à gonocoque. Ce risque, il est augmenté d'un facteur 1000 à 2000 par rapport à la population générale. Alors, ça paraît, lorsqu'on dit ça, énorme. Ce surrisque, il est réellement considérablement augmenté. En termes d'incidence, ça reste malgré tout assez rare, puisque on considère que l'incidence est de 0,25 cas pour 100 patients années, ce qui signifie 0,25 cas pour 10 patients traités pendant 10 ans ou un patient traité pendant 100 ans. Donc, en fait, c'est quand même... Donc, ça veut dire que c'est quand même malgré tout assez rare, mais que c'est à prendre en compte. Et comment le prend-on en compte ? Avec d'abord une information des patients et de leur entourage. Les patients doivent porter une carte pour signaler la nature de leur traitement et le risque attenant d'infection à méningocoque pour que éventuellement des urgentistes puissent mettre en œuvre la démarche diagnostique et thérapeutique rapidement, mais aussi en vaccinant contre le méningocoque avec les 4 sérotypes, même les 5 sérotypes, puisque maintenant il y a le sérotype B également qui est couvert par le vaccin. Et puis, une antibiothérapie orale pendant toute la durée du traitement ciblant le complément.
Alors, le CHU atypique est une maladie rare avec une prise en charge des patients au sein de centres experts principalement. Quelle est l'importance de la coordination des soins entre les différents spécialistes dans cette pathologie ?
Alors, sans même parler de CHU atypique, le CHU est une maladie qui est de manière prioritairement atteint le rein. C'est comme ça qu'elle a été caractérisée en 1955 par un médecin suisse-allemand, Gasser. Et donc, l'atteinte, elle est quand même d'abord et avant tout rénale. Après, on a vu dans l'épidémie qui a touché l'Allemagne au début des années 2010 qu'elle pouvait également, en particulier chez l'adulte, avoir des traductions neurologiques graves. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il y a des concertations transdisciplinaires, mais c'est quand même malgré tout assez rare. L'enjeu de la collaboration, il est plus dans une prise en charge au long cours, lorsque les patients ne sont pas forcément sur une grande ville auprès d'un CHU et qu'il y a un relais avec des praticiens de centres hospitaliers périphériques, où les informations, les dernières informations sur les éléments de suivi, sur la protection vis-à-vis du méningocoque ne diffusent peut-être pas aussi bien qu'en CHU. C'est là où ces informations sont importantes. C'est important de faire partager ces informations et d'avoir un réseau collaboratif nourri. La dernière chose qui est aussi importante à signaler, c'est que ces médicaments qui ciblent le complément ont été administrés chez des femmes enceintes. On a aujourd'hui, dans le CHU atypique, mais aussi dans une autre maladie pour laquelle il existait une indication antérieure, et on a aujourd'hui une expérience assez considérable chez femmes enceintes. Ça pose aucun problème d'ordre tératogénicité, et ça permet au contraire de garantir à ces femmes d'avoir des grossesses relativement simples sans risque de récidive de leur maladie. Mais par contre, évidemment, ça implique une collaboration avec les obstétriciens et les pédiatres qui prendront en charge les enfants à la naissance.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, professeur Zuber. Si on fait un peu de prospective, quelles sont les voies de recherche actuellement en cours dans le CHU atypique ?
Alors, les voies de recherche, moi, j'en vois comme ça 4 assez évidentes. Il y en a probablement d'autres. La première, c'est de mettre au point des outils diagnostiques qui permettent d'avoir un diagnostic positif, c'est-à-dire de ne pas avoir toute cette démarche d'élimination des diagnostics différentiels qui peut être longue, en particulier chez l'adulte, on l'a évoqué. Et pour ça, il y a un certain nombre de pistes. En particulier, il y a un outil qui a été développé par une néphro-immunologiste chercheuse italienne et qui maintenant a été reprise par d'autres investigateurs, y compris français, et qui permet de tester sur le sérum des patients, voir s'il y a la capacité d'activer le complément rapidement dans un test in vitro. Et ça, si cet outil-là est performant, il nous aidera à la prise en charge diagnostique très rapide de ces patients pour l'identification de ceux qui doivent bénéficier d'un traitement ciblant le complément. Ça, c'est une première piste. La seconde, c'est d'avoir des idées claires sur la signification des variants génétiques identifiés. J'ai évoqué la dérégulation de la voie alterne du complément. En France, on trouve des anomalies génétiques chez 60 à 70% des patients atteints de cette maladie dans le laboratoire de Véronique Frimobaki. Et parfois, avec des techniques modernes de génétique, c'est pas toujours simple de savoir quelle est la signification d'un variant génétique identifié. Et c'est important que les pays, les centres de référence, partagent leurs données, leurs informations pour avoir des informations sur le retentissement fonctionnel ou non d'un variant génétique identifié afin d'être sûr que, on est vraiment en face d'une maladie de type CHU atypique. La troisième chose, c'est les nouveaux bloqueurs du complément. Ça, il en arrive. Il y en a maintenant de multiples qui sont en cours de développement avec des voies d'administration qui vont changer, passant de la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée, ce qui peut être aussi une façon de permettre aux patients de s'éloigner de l'hôpital, ce qui améliore leur qualité de vie. Et puis aussi d'espacer les doses des médicaments dont la demi-vie est beaucoup plus longue. Et enfin, et ça j'en ai déjà parlé, l'individualisation du traitement me paraît essentielle. Tout le monde n'a pas besoin de recevoir un traitement à très longue durée, et donc il est important désormais que, à travers des travaux multicentriques, c'est une maladie très rare, on puisse identifier les patients chez qui on peut arrêter le traitement en toute sécurité et la meilleure façon de les suivre après.
Eh bien, merci mille fois, professeur Zuber, de nous avoir éclairé sur la prise en charge de ce syndrome hémolytique et urémique atypique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.